Alors, il y a quelques jours, hein, parce que ça, il y a 2 semaines, il y a André Touche qui est venu. Et donc, alors, je me rappelle que donc André Touche, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un missionnaire qui était autrefois juste un étudiant de la région parisienne qui était venu finir ses études à Perpignan, des études normales, hein, pendant un an, dont on l'a connu. Et maintenant, il est missionnaire avec sa femme et ses 4 enfants en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et donc, quand il était là, donc c'était en 2003-2004, et je me rappelle qu'il m'avait demandé, peut-être à d'autres aussi, mais il m'avait demandé d'aller à Lourdes. Donc c'était à 1000 km de chez lui. Donc il pensait que Lourdes c'était à côté, pas loin. Et c'était juste pour voir à quel point l'Église catholique adorait Marie. C'est quelque chose comme ça. Et je dis, ah ouais, c'est intéressant, moi j'étais jamais allé à Lourdes. Et finalement, c'est pas à côté, on n'y est pas allé. Et lui non plus, je ne sais pas s'il est allé depuis. Et moi, l'an dernier, j'y suis allé. Mais comme ça, parce qu'on était en vacances pas loin. Donc, on a pu aller et on a pu voir combien l'Église catholique adore Marie. Mais en fait, si je vous dis cela, c'est parce que André et moi, on est curieux, donc on voulait savoir. Et donc, c'était intéressant d'aller même se déplacer si loin pour connaître, pour voir ce qu'il en est. Mais j'ai connu quelqu'un qui était à Banyuls. Et donc, un jour, elle a appris que le pape allait à Lourdes. Et donc, en fait, elle est allée à Lourdes, non pour un culte à Marie, mais pour voir le pape. Et alors, il se trouve même que elle avait été interviewée par la télé et que je l'avais vue à la télé en disant, le plus important, c'est ce pape qui nous apporte tant de paix, ou je ne sais pas, je crois que c'était Jean-Paul II à l'époque. Hein. Donc, voilà. Alors, celui qui estime que le pape est un être exceptionnel va faire tous ses efforts pour aller le voir. Donc, il va saisir l'occasion et créer même les occasions de le faire, hein, d'aller voir cet homme. Hein. Et il en va de même au sujet des idoles que le monde élève. Hein. C'est par exemple les chanteurs. Ce sont des idoles parmi les hommes. Je me rappelle avoir vu à la télé des fans de Claude François et c'était un vrai culte. C'était vraiment tout pour lui, prêt à tout, même après sa mort. Donc, tout ce qui rappelle Claude François, voilà. Donc, une vraie idole. Et donc, pour eux, tous les efforts sont importants, peut-être les moyens financiers, pour faire des pèlerinages là où il habitait, acheter des choses qui lui appartenaient, sa musique, etc. Et donc, je voudrais dire aujourd'hui que beaucoup de gens ne croient pas en Dieu. Et ils disent, qui l'a vu ? Et je croirai quand je le verrai. Alors, on va voir aujourd'hui, quand Dieu a créé Adam et Ève, ceux-ci le voyaient chaque jour sans aucun problème. Et alors, vous imaginez voir Dieu chaque jour sans aucun problème. Et lui, il est Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Et Adam pouvait apprécier et se réjouir de la présence de Dieu, parce que Dieu venait le voir, le visiter. Et donc, on va voir ce qui s'est passé dans la parole de Dieu. Alors, d'abord, Genèse 2. On commencera à partir du verset 25. Et on ira chapitre 3 jusqu'à 21. Genèse 2, 25. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu ? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur parce que je suis nu, et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu ? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre, et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduite, et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ton lignage et son lignage. Celui-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. » Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Alors, l'homme a péché contre Dieu. Il lui a désobéi et désormais, il ne peut plus voir Dieu ni apprécier sa présence. Alors, tout homme peut dire « Qui a vu Dieu ?» Eh bien, non, ce n'est pas possible à cause de cette désobéissance. « Je croirai quand je le verrai. » Eh bien, le Seigneur se révèle, mais voilà, à cause du péché, il ne peut pas le faire. Alors, l'homme se sent nu, et il sait qu'il ne peut pas s'approcher ainsi de Dieu. Imaginez que vous soyez nu, vous aurez plutôt envie de vous cacher, de faire quelque chose comme ça. En fait, devant Dieu, ben on est nu. On est nu, et l'homme est nu, il ne peut pas s'approcher de lui, il sait qu'il est indigne. Et il sait qu'il est trop injuste pour s'approcher du Dieu parfait et saint. Alors, comment un homme pourrait-il s'approcher de Dieu? Il sait au fond de son cœur qu'il ne le peut pas. Ceux qui disent « je croirai quand je verrai » disent cela parce qu'ils ne croient tout simplement pas et même ils ont peur de croire en lui. Vous avez vu la réaction d'Adam et Ève. Alors, si Dieu leur disait à ces personnes « aujourd'hui tu vas me voir », vous pouvez voir que à quoi ils penseraient. Ils penseraient à la mort. Aujourd'hui, eh bien, je vais rencontrer Dieu. Rien que d'entendre la voix de Dieu, ils commenceraient à trembler. Ils mourraient de peur à l'approche du rendez-vous. Là, dans le jardin d'Éden, Dieu avait rendez-vous tous les jours avec Adam et Ève. Mais maintenant, l'homme est dans cette crainte de Dieu et même si par bravoure il disait « j'aimerais voir Dieu pour y croire », en fait, il a une peur de le voir. Peut-être que même nous aussi, on craint de voir Dieu, d'imaginer qu'il peut se présenter à nous, nous parler directement comme on le voit dans la parole de Dieu. Alors, à cause du péché, c'est à cause du péché qu'on ne peut voir Dieu et vivre. Adam et Ève en ont eu tout de suite conscience et tous les hommes le savent. Mais Dieu désire que l'homme le rencontre et le voit. C'est pourquoi il a trouvé le moyen de le purifier de son péché. Alors, on a célébré Christ, son sacrifice, et bien c'est par ce sacrifice que de Jésus-Christ que Dieu peut se manifester à chacun de nous. Alors, la parole de Dieu nous dit qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est ce péché qui fait obstacle. Alors, on a lu le verset où Dieu habilla Adam et Ève avec des habits de peau et il montrait ce qu'il allait faire. Et nous voyons dans l'Ancien Testament que Dieu avait donné un moyen de s'approcher de lui en attendant le sacrifice suprême, Jésus-Christ. C'était ce sacrifice d'animaux où on égorgeait des agneaux, des boucs, du bétail et des oiseaux. Mais donc le sang répandu qui ôtait la vie, en fait, était en substitution pour le salut de ceux qui faisaient cet acte de foi. Ils le faisaient sur l'autel que Dieu avait donné dans un lieu saint. Alors, ça a évolué dans l'histoire. Donc, vous vous rappelez que Abraham a fait des sacrifices là où Dieu s'est révélé à lui. Puis après, on peut voir que Dieu donne la tente d'assignation, de la rencontre, où celle-ci peut être démontée, remontée, placée n'importe où dans le désert, et Dieu reçoit les sacrifices dans ce lieu. Puis David, le roi David a eu le désir, il a eu à cœur de construire le temple, et Salomon l'a construit, et donc c'était à Jérusalem, dans un sanctuaire en dur, et donc il fallait aller à Jérusalem pour offrir ses sacrifices, et donc il fallait qu'une fois par an, tous les Israélites aillent à Jérusalem, où le souverain sacrificateur offrait les victimes expiatoires pour le pardon des péchés du peuple. Et donc, en ce moment, il y a eu Yom Kippour, et les Juifs se rappellent de ce jour du pardon, Yom Kippour, où Dieu pardonne ceux qui s'approchent de lui. Alors, regardons ce qu'il se passe quand un homme sincère recherche Dieu. Alors, nous avons dans la parole de Dieu l'exemple de Moïse. Alors, au chapitre 3 d'Exode, ben je dis bien une recherche sincère de Dieu, pas que Dieu se manifeste et puis je croirai en lui. Alors, Exode 3, 1 à 6. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. » L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, « Moïse, Moïse !» Et il répondit, « Me voici !» Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Et donc, on voit cette première approche, Dieu se révèle à Moïse, mais Moïse a peur de regarder Dieu. Et on va voir un peu plus loin où Dieu se révèle à son serviteur. Dans Exode 34, on peut lire versets 1 à 9. L'Éternel dit à Moïse, taille deux tables de pierre comme les premières qu'il avait détruites. Et j'y écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Sois prêt de bonne heure et tu monteras dès le matin sur le mont Sinaï. Tu te tiendras là devant moi sur le sommet de la montagne. Que personne ne monte avec toi et que personne ne paraisse sur toute la montagne. Et même que ni brebis ni bœufs ne paissent près de cette montagne. Moïse tailla deux tables de pierre comme les premières. Il se leva de bon matin et monta sur le mont Sinaï, selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Et il prit dans sa main les deux tables de pierre. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté, et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à mille générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants, jusqu'à la troisième et la quatrième génération. Aussitôt Moïse s'inclina à terre et adora. Il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que le Seigneur marche au milieu de nous, car c'est un peuple au cou raide. Pardonne nos iniquités et nos péchés et prends-nous pour ta possession. » Et là donc, on voit combien Dieu se révèle à Moïse progressivement, mais il va le faire pleinement. Alors on peut lire aussi 29 à 35. Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les deux tables du témoignage dans sa main, en descendant de la montagne. Et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait, parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Aaron et tous les enfants d'Israël regardaient Moïse. Et voici la peau de son visage rayonnait, et ils craignaient de s'approcher de lui. Moïse les appela. Aaron et tous les principaux de l'assemblée vinrent auprès de lui, et il leur parla. Après cela, tous les enfants d'Israël s'approchèrent et il leur donna tous les ordres qu'il avait reçus de l'Éternel sur la montagne de Sinaï. Lorsque Moïse eut achevé de leur parler, il mit un voile sur son visage. Quand Moïse entrait devant l'Éternel pour lui parler, il ôtait le voile jusqu'à ce qu'il sorte. Et quand il sortait, il disait aux enfants d'Israël ce qui lui avait été ordonné. Les enfants d'Israël regardaient le visage de Moïse et voyaient que la peau de son visage rayonnait. Et Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il entre pour parler avec l'Éternel. Alors là, bien, on voit cette transformation parce qu'il a été dans la présence du Seigneur. Et il commence en fait à ressembler à celui auquel il s'adresse. Il a voulu connaître, il était dans la crainte respectueuse de Dieu, et petit à petit, le Seigneur se révèle et ça se manifeste et tout le monde le sait. Alors on peut voir dans Exode 33, un verset, le verset 11, « L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. » Puis Moïse retournait au camp. Alors on peut voir aussi Nombre, chapitre 12. Alors combien c'est merveilleux de se dire Moïse parlait à Dieu face à face. Et d'autres disaient, ouais, mais moi je croirai que quand je verrai. Mais je ne veux pas le voir finalement. Alors, il est dit dans Nombre 12, verset 6 à 8. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Voilà ce merveilleux privilège que Moïse avait. Alors on peut lire un verset dans Deutéronome 34, verset 10. Il n'a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse que l'Éternel connaissait face à face. Alors, on pourrait dire, quel privilège merveilleux avait Moïse. Alors moi, aujourd'hui, eh bien, je vous invite à considérer plutôt votre privilège, notre privilège. Et c'est celui de tous les chrétiens, c'est-à-dire de ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme un sauveur. On a pris la Sainte Cène. Et je suis étonné souvent que souvent on explique pourquoi on prend le pain et le vin, qu'est-ce qu'ils représentent, et beaucoup de personnes qui écoutent ça ne comprennent pas ce qui leur est dit. Ils ne comprennent pas que Jésus est mort pour eux, ils ne comprennent pas que Jésus peut les purifier de leurs péchés maintenant. Et ils prennent le pain et le vin sans avoir jamais senti le besoin de se repentir et d'aller vers Jésus pour lui demander le salut. Et donc, il est important de savoir que nous rappelons l'œuvre de Christ à la croix. Jésus est le don de Dieu, il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Celui qui croit en lui est pardonné de ses péchés et il devient un privilégié. Et donc, c'est cette bonne nouvelle que nous annonçons à tous, mais une fois que nous l'avons reçue, eh bien, il faut se réjouir. Et il faut, je pourrais dire, abusé de cette présence de Dieu. Et il est important de savoir que nous pouvons nous approcher librement de Dieu avec la justice de Christ. Sinon, eh bien, il y aura toujours cet obstacle. Il y aura toujours une crainte, en fait, peut-être d'être foudroyé à cause de nos péchés. Dieu veut pardonner tous nos péchés. Et une fois qu'il a fait, nous sommes libres. Alors, je pourrais dire, plus que Moïse, d'entrer dans la présence de Dieu. Alors, on peut lire Éphésiens, chapitre 3. Versets 8 à 12. C'est Paul qui parle. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière le moyen de faire connaître le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a créé toutes choses. C'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ, notre Seigneur. En lui, nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Là, c'est merveilleux. S'approcher de Dieu avec confiance. Alors, par Jésus-Christ, on peut lire 2 Corinthiens, chapitre 3. Et versets 13 à 18. Et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixent pas les regards sur la fin de ceux qui étaient passagers. Mais ils sont devenus durs d'entendement. Il s'agit des Juifs. Car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et il ne se lève pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Le but de Dieu est que nous soyons transformés à l'image du Seigneur Jésus-Christ. Et désormais, nous pouvons nous approcher de Dieu librement, totalement, comme si nous n'avions jamais péché. C'est un privilège. Lisons un autre passage dans Hébreux, chapitre 10, versets 19 à 22. Ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Jésus est notre souverain sacrificateur et il rentre avec son propre sang dans le sanctuaire céleste. Et donc, on voit ce privilège merveilleux. Il est même important et essentiel de nous approcher le plus souvent du Seigneur pour l'adorer et pour le prier. Alors, c'est une invitation que l'on peut voir dans cette même épître aux Hébreux, au chapitre 4, versets 14 et 16. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Voilà l'importance de nous approcher du Seigneur et cette invitation que le Seigneur nous fait d'aller sans cesse dans sa présence. Alors, il y a des personnes qui feraient le tour du monde pour juste une chose, pour voir quelque chose, pour vivre quelque chose. Et je me rappelle vaguement de quelqu'un. Hein. Alors, elle voulait aller à New York, ou elle allait à New York pour manger des sushis. Alors, moi je ne connais pas trop les sushis, hein, mais les bons sushis. Hein. Et donc, on les fait nulle part ailleurs aussi bons qu'à New York. Semble-t-il. Alors, aller à New York pour manger des sushis. Voilà. Alors, on se prépare, on paie le voyage pour aller là-bas. Bon, on visite un petit peu aussi, mais c'est pour ça. Hier, j'ai vu une famille de Français qui allait aux USA pour faire du vide-grenier, de la brocante, pour acheter des vieilles plaques de publicité, de Coca-Cola ou autre chose. Alors, il paraît qu'il y a une route qui traverse plusieurs États, du sud au nord, qui fait 1000 km. Et donc là, il y a des vide-greniers partout. Donc, tout le temps, c'est. Bon, ça aide ceux qui vendent, et puis c'est devenu un business énorme. Hein. Et donc, là, la famille de Français avait loué une voiture et l'avait chargée de bibelots. Elle était venue exprès pour ça. Alors, je ne sais pas si elle avait l'habitude d'y aller chaque année. Mais bon, voilà. C'était. Leur centre d'intérêt est la chose la plus importante pour eux, pour décorer leur maison, pour collectionner. Et peut-être, voilà, chacun peut voir quel intérêt il peut avoir, mais on voit souvent la publicité dans Internet, dans les livres. Alors, les 1000 endroits où vous devez être allé. Les 10 plus belles destinations du monde, le plus grand, voilà. Après, les 7 merveilles du monde, allez voir les 7 merveilles, il n'y en a plus autant. Mais donc, chacun peut voir qu'il peut faire des choses extraordinaires. Se déplacer, faire des choses pour un truc qui, quand on réfléchit bien, est vain. Alors, même il y a les 1000 plus beaux greens de golf qu'il faut essayer avant de mourir. Donc, il faut jouer au golf. Je ne sais pas s'il y a beaucoup qui jouent au golf ici. Mais alors, c'est ce que je me suis demandé, comment ça se fait qu'un livre tel soit écrit, c'est que ça intéresse beaucoup de gens. Alors voilà, c'est des choses qui attirent les hommes et ils sont prêts à tout pour faire certaines choses. Eh bien nous, en tant que chrétiens, il n'y a pas besoin de se déplacer. Hein. Nous, on doit s'approcher du Seigneur et il est là. Et pour quoi faire? Pour trouver grâce. Est-ce qu'on a besoin de la grâce? Et oui, on a besoin tous de la grâce. Pas une fois pour toutes, mais tous les jours, on a besoin de la grâce de Dieu. Approchons-nous du Seigneur pour trouver grâce. Approchons-nous pour intercéder. Demandons. Combien de choses on peut négliger parce que finalement on juge qu'elles ne sont pas si importantes alors qu'elles sont importantes. Si quelqu'un me dit il faut prier pour ça parce que je dois faire ceci, cela, peut-être pour moi c'est pas important, mais pour elle c'est important que le Seigneur agisse, intervienne, ou qu'il change d'intercession, mais si il juge que c'est important et qu'il me demande de prier, eh bien, je vais prier. Mais souvent, la personne qui demande cela, elle ne prie pas autant qu'elle devrait, elle n'intercède pas. Intercéder. Intercéder. Quand il y a un procès avec des accusés, eh bien, le procès il dure longtemps. Hein. Et il y a des renvois, et on intercède, c'est l'avocat. Il y a des plaidoiries. Eh bien, même si ça prend du temps, intercéder est nécessaire. Et nous devons intercéder auprès du Seigneur, auprès du trône de la grâce. Et non seulement cela, mais pour tenir ferme, nous devons nous approcher du Seigneur. Pour être exaucé, alors, bien sûr, Dieu peut nous exaucer très vite, quand il veut, comme il veut, mais il nous demande d'intercéder pour être exaucé. Est-ce que nous croyons que nous allons être exaucés quand nous nous approchons du Seigneur? Est-ce que vraiment nous le croyons? Je demande quelque chose et j'envisage sérieusement que je vais la recevoir. Ou alors peut-être que la volonté du Seigneur se fasse, bien sûr. Mais justement, il nous demande, demandez, et vous trouverez, vous recevrez. Alors, nous devons nous approcher du Seigneur, mais surtout pour rechercher sa présence. Nous n'avons aucune crainte. Peut-être au début, nous avions la crainte comme Moïse, mais maintenant, nous n'avons aucune crainte. Au contraire, le Seigneur se réjouit quand nous nous approchons de lui. Est-ce que vous êtes content de voir votre femme, votre mari, vos enfants? Est-ce que vous êtes content de voir les chrétiens? Est-ce que vous dites, bon, je ne l'ai pas vu, tant pis. Mais le Seigneur, lui, il veut qu'on s'approche, il est heureux. Et nous, si nous comprenons combien on peut avoir de la joie quand on aime quelqu'un et qu'on veut s'approcher de lui, eh bien, on fera la même chose, nous approcher du Seigneur parce qu'on l'aime. Alors, vous vous rappelez la Samaritaine qui était au puits de Sichar, hein, dans Jean chapitre 4. Alors, quelque part, elle avait entendu que Dieu est un sauveur, Dieu intervient, Dieu est bon, mais tout était flou dans sa vie et aussi elle n'était pas en règle. Mais alors, on pourrait dire qu'elle avait des excuses pour pas vivre pleinement ce que Dieu voulait. Alors, c'était pas le bon lieu, c'était pas sa vie n'était pas en règle. Et donc, elle trouvait des excuses. Alors, on peut lire quelques versets dans Jean 4. Versets 20 à 24 d'abord. Voici ce que dit cette Samaritaine. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites à vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. » Et là, on voit ce que lui répond la femme. La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Alors, le Seigneur lui dit, « Ce n'est plus à Jérusalem, ni au Mont Garizim, ni nulle part, mais c'est partout. Partout où vous êtes, en esprit, en vérité. » Et la femme dit, « Je sais que le Messie doit venir et il nous annoncera toutes choses. Je le suis. » Et en fait, nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Et nous devons nous approcher de lui. Parce qu'en fait, la réponse et la solution à tous nos problèmes, à tous nos besoins, est en Jésus-Christ. C'est à lui que nous devons aller pour recevoir de lui pleinement tout ce qui est un problème pour nous, tout ce qui peut-être est un manque de connaissance, un éclaircissement, un aspect du Seigneur à reconnaître, qui est important de savoir pour notre édification, pour notre bénédiction, pour que nous reflétions Christ. Alors, on peut lire Jean chapitre 6. Alors, au verset 60, donc le Seigneur parlait et ceux qui l'écoutaient ne comprenaient pas. Et il s'agissait de venir à lui, en fait. Plusieurs de ses disciples, donc on va lire verset 60 à 69, plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, « Cela vous scandalise-t-il ? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui était ce qui ne croyait point et qui était celui qui le livrerait. » Et il ajouta, « C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. » Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allèrent plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » On l'a dit, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Alors, est-ce que il y a quelque chose ou quelqu'un que l'on préférerait à lui? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se comprendre que eh bien c'est trop pour lui ou ça va pas et partir? Et le Seigneur invite chacun ici et il dit et vous voulez partir aussi? Et il veut que chacun de nous ici nous approchions de lui. Alors si nous n'avons pas fait la paix avec lui, eh bien, n'allez pas chercher ni un homme, ni un gourou, ni une personnalité quelconque, quelle qu'elle soit, ou un lieu pour l'adorer, Lourdes, ou Rome, ou la Mecque, ou d'autres endroits dits sacrés, mais c'est à Christ qu'il faut aller. Et maintenant, et c'est ça que le Seigneur demande à chacun et il interpelle chacun ici pour venir à lui. Alors, quand? Eh bien, aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'il faut venir. Aujourd'hui, le jour du salut. Et on peut voir cet appel que le Seigneur fait dans un passage, entre autres. Alors, c'est dans Apocalypse chapitre 3. versets 14 à 22. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime, et donne du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alors certains attendent. Pourquoi attendre? Quelle est la raison d'attendre quand on a compris, quand la porte est prête à s'ouvrir si nous le voulons, parce que le Seigneur frappe. Et que ce soit pour se mettre en règle, que ce soit pour toute chose, le Seigneur est là pour qu'on marche avec lui. Alors nous sommes revêtus, nous qui avons cru, de la justice de Christ, comme d'une robe pure. On peut le lire dans Galates 3. 26 et 27. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Voilà, nous sommes revêtus de cette justice. C'est merveilleux. Et un jour, bien, nous le verrons face à face. Ça, c'est la promesse du Seigneur. Alors, cette rencontre que nous faisons chaque jour, elle est merveilleuse. C'est la réalité. Mais un jour, nous le verrons face à face. On dira, je l'ai vu de mes yeux vus. Et rappelez-vous les paroles de Paul. Je ne sais pas ce qui est mieux, partir ou rester. Il me tarde, ce serait mieux que je parte, mais pour vous je vais rester parce que le Seigneur m'appelle à faire des choses. Eh bien, voilà, il avait compris que le meilleur c'était dans la présence de Dieu. Un jour nous serons semblables à Christ, c'est merveilleux. Nous avons une espérance vivante. Alors approchons-nous donc sans hésitation, sans crainte, sans cesse de notre Sauveur et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a tant aimés et qui nous a préparé une place dans sa présence. Chacun de nous, il nous connaît par notre nom. Il est notre bon berger. Dieu a fait de nous son temple. C'est merveilleux, il est présent. Sa présence, son soutien est pour nous qui avons cru. Quel privilège, quel bonheur. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternels à ta droite. Nous allons prier.